Ici Annie Quentin, aujourd'hui notre invitée, Marie-France Guénette.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Je vous ramène à vos travaux, à vos projets actuels, Marie-France. Est-ce que le traducteur, le rôle de traducteur, de traductrice, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes traductrices dans la période que vous étudiez, vous nous direz, est-ce que ce rôle-là était le même qu'aujourd'hui? Vous intéressez à la traduction, à la cour d'Henriette Marie. Parlez-nous de à quoi ça ressemblait à cette époque-là, dans ce monde-là.
Oui, donc ça, là, on recule. Dans le fond, on est rendu au 17e siècle, donc là où, dans le fond, la période que j'étudiais au doctorat et que, en fait, je continue à étudier, oui, c'est de 1625 à 1649 à peu près. À peu près, dis-je, c'est très précis. Quand on parle aux gens qui travaillent sur l'histoire, les gens disent « Ah non, mais... » Bon, pour vous donner un exemple, j'ai voulu collaborer avec quelqu'un, puis j'ai dit « Ah, on pourrait collaborer ensemble. » Puis la personne m'a dit « Ah non, moi, mon expertise commence en 1700. » J'ai dit « Ouais, mais entre 1699 puis 1700, on n'est pas trop loin. » Mais non, pour les domaines, les périodes, en fait, il y a tellement de choses qui se passent mm-hmm. dans le monde que si on coupe pas quelque part, on est dans trop de questions.
Non, c'est ça. Penser, c'est classé. Hein?
C'est ça. Donc, 1625, c'est l'année où le roi Charles Ier d'Angleterre a marié la princesse française Henriette Marie. Charles était protestant, Henriette Marie était catholique. Le catholicisme était banni en Angleterre, ou du moins sujet à des amendes. Donc, on pouvait pratiquer notre religion catholique, mais il fallait payer une amende annuelle. Je ne sais pas exactement combien ça représentait, mais c'était ça. Donc, essentiellement, il fallait être riche. Et il fallait avoir les moyens de pouvoir s'affirmer comme catholique. Mais là, Henriette Marie arrive en scène. Elle est une vraie princesse française. Elle porte des robes. Elle expose beaucoup plus de son corps que ce que les Anglais acceptaient à l'époque. Elle se met belle. Elle danse à la cour. Elle parle dans des... Donc, elle est représentée dans des représentations théâtrales. Et elle parle et elle danse. Elle n'est pas la première reine anglaise à se mettre en scène dans des situations de théâtre, mais elle est la première à se mettre en scène et à parler. C'est important. Elle s'affirme d'une manière qu'on n'a pas nécessairement vue auparavant, d'un point de vue culturel et d'un point de vue idéologique. Donc, elle garde sa religion. Mm-hmm. Le pape a approuvé le mariage à condition que la reine puisse continuer à rester catholique, même si le catholicisme était banni en Angleterre. Donc là, on est dans des enjeux. Vous m'avez parlé de traduction, moi je vous parle de religion.
Et de politique, et on le sent, ça s'en vient.
C'est idéologique, c'est politique, c'est religieux. Pourquoi tout ça? Ben, parce que Henriette Marie, elle est française. Donc elle amène ses confesseurs, ses dames de chambre, etc. Elle amène tous ses amis à la cour en Angleterre. Là, on est dans une dynamique bilingue, dans le fond, à la cour. Bon, on ne parle pas de bilinguisme comme aujourd'hui. Mais cette idée qu'on va traduire des documents pour la reine ou pour le roi en disant « chère reine, chère belle dame, etc., je vous dédicace tel document. » Donc, le premier exemple que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, c'était la cour sainte, un document qui a été écrit en France par un confesseur jésuite, dédicacé au roi Louis XIII. Donc, je pense que c'était le frère d'Henriette Marie. En tout cas, dédicacé au roi Louis XIII, écrit en français. La cour sainte a été traduite en 1625 vers l'anglais, dédicacé à la reine Henriette Marie. Pourquoi c'est pertinent? Parce que la reine Henriette Marie ne parlait pas anglais à l'époque.
En effet.
Ça lui a pris 2 ans à apprendre l'anglais, parce qu'au départ, elle refusait d'apprendre l'anglais et communiquait exclusivement en français avec les gens qu'elle avait amenés avec elle de la France. Mais là, je viens de vous dire qu'il y a quelqu'un qui a traduit un document dédicacé à Henriette Marie, puis c'est écrit avec des belles lettres, tout beau, tout
enluminé.
Oui, c'est magnifique, le document traduit vers l'anglais, dédicacé à Henriette Marie. Avec la dédicace originale aussi au roi Louis XIII, traduite en anglais. Donc là, on est dans des questions, mais pourquoi on fait ça? Qui a payé pour ça? Dans le fond, ce qu'on a fait avec Henriette Marie, ce majestueux on mystérieux de l'histoire, c'est qu'elle s'affichait comme étant catholique. Donc, les catholiques se sont associés à elle pour être une espèce de représentation de leur pensée et de leur idéologie, leur religion. Alors, on traduisait des documents, on les dédicassait à Henriette Marie pour avoir sa protection. Dans le fond, on s'affichait comme étant de la même religion qu'elle, donc on voulait avoir une protection, un mécénat tant financier comme en question de protection. Puis, éventuellement, la reine a, oui, appris l'anglais, mais on voit toutes sortes de documents qui sont dédicacés à elle. Donc, dans ma recherche, j'ai voulu étudier la traduction à la cour d'Henriette Marie et aussi à la cour de Charles Ier, mais leur cour se divisait un peu en deux, parce que les gens qui s'associaient à Charles Ier étaient protestants, les gens qui s'associaient à Henriette Marie étaient catholiques. Donc, dans un même contexte socio-culturel, si on veut, on a comme une subdivision, puis ensuite, il y a des livres qui sont dédicacés à Charles, il y en a qui sont dédicacés à Henriette Marie, puis on voit différents styles de textes, différents types de publications. Et puis, j'ai voulu, dans le fond, explorer qui sont les traducteurs, quels sont ces textes, pourquoi, qu'est-ce que ces gens-là recherchaient. Et puis, on a aussi utilisé, donc je vous ai parlé d'Henriette Marie comme étant, dans le fond, une espèce de pôle idéologique, religieux, politique. Ben, en fait, elle était aussi un pôle culturel, parce qu'on importait la culture de France via Henriette Marie, en traduisant des documents. Puis, tranquillement, mais la culture française était adoptée dans certains cercles en Angleterre. Donc, une question, plusieurs sous-questions. On voit un peu comment les enjeux, donc, je vous ai parlé des enjeux sociaux, politiques, idéologiques, culturels, c'est pour ça que tout ça se recoupe, on ne peut pas les séparer.
Est-ce que lui, Charles, parlait français?
Je sais même pas.
OK.
Je sais même pas. Je sais pas. En fait, il n'était pas censé marier Henriette Marie. C'est un petit peu ça qui est comique. Il voulait épouser une princesse espagnole. Il est même allé en secret en Espagne avec son ami. Habituellement, faut déclarer une visite diplomatique comme ça, mais il est allé en secret en Espagne, ça a causé tout un tollé. Finalement, il n'a pas pu épouser sa
Juliette.
Sa Juliette. Puis il a épousé Henriette Marie, qui n'était pas destinée à être reine, en fait. Elle avait reçu une éducation qui est... Il y a une historienne, Carolyn Harris, qui... a fait une biographie récente d'Henriette Marie. Puis, en fait, elle a fait une biographie qui contraste Marie-Antoinette et Henriette Marie. C'est assez spécial. Mais l'éducation qu'Henriette Marie a reçue était axée sur la religion et la culture, donc la danse, le chant. Elle était destinée donc à être responsable d'une cour, mais plus provincial, peut-être comme de marier un duc ou quelque chose comme ça. Par un concours de circonstances assez exceptionnel, elle a épousé un roi, elle est devenue reine dans un pays. Normalement, si on sait qu'on va envoyer notre petite fille, notre petite princesse dans un pays, on va s'arranger pour qu'elle parle la langue avant.
Mais oui.
C'était vraiment, c'est inhabituel qu'elle se retrouve dans ces circonstances-là. Mais fidèle à elle-même, elle a gardé, dans le fond, ses intérêts, qui étaient la religion, la culture, la danse, etc. Elle a beaucoup investi dans ces domaines-là. Ça a causé encore plus de drames en Angleterre parce que le pays était en guerre, les gens mouraient de faim. Et puis, madame, elle construisait des chapelles dorées. C'est vraiment...
À côté du protestantisme plus dépouillé.
On voit à travers cet exemple-là, Marie-France, que ça vous permet de voir la circulation des discours, la circulation des textes et des discours qui sont portés par ces textes-là. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous intéressez ou à laquelle la traductologie en général s'intéresse, la circulation des textes à travers la traduction?
Absolument. Ça a été une question d'espèce de transmission, de transfert. J'ai voulu savoir, dans le fond, si Henriette Marie est le pôle récepteur, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas nécessairement elle qui va lire les documents, mais les gens autour, aux alentours d'elle. Si Henriette Marie est le récepteur, en fait, qui sont les autres agents qui contribuent à créer ce réseau de production, de traduction, qui a traduit carrément le manuscrit de ce document-là? Et ensuite, où a-t-il été imprimé? Mm-hmm. Ça, c'est une autre question, hein, parce que les livres catholiques n'avaient pas le droit d'être imprimés en Angleterre. Donc, la plupart des livres que j'ai découverts dans ce corpus-là étaient imprimés à l'étranger, dans des collèges jésuites anglais sur le continent européen. Donc là, on est encore dans les questions de religion, mais les presses, donc les collèges jésuites avaient des presses à imprimer, imprimaient les livres sur place, mettons à Douai, à Rouen, et puis ensuite, ces documents-là, par, encore une fois, on ne sait pas trop comment, réussissent à faire leur chemin pour arriver en Angleterre, alors qu'ils sont bannis. Donc, une des questions de ma thèse, c'était, en fait, une des questions de mon examen de synthèse avant même de commencer à rédiger ma thèse, c'était comment les textes circulent-ils? Et puis, au fil des recherches, on m'a dit, Marie-France... c'est pas une bonne idée de rechercher cette question parce qu'il y aura pas de réponse. Puis en fait, c'est vrai, j'ai pas encore trouvé la réponse. Comment les livres...
Vous cherchez toujours?
Oui, je cherche toujours! Comment les livres rentraient-ils en Angleterre? Il est question de... puis comment les manuscrits sortaient-ils? Cette question de circulation, elle perdure. Il y a quelqu'un qui a dit que peut-être qu'avec les enfants, quand on avait des enfants... On était une famille catholique en Angleterre. On envoyait nos enfants étudier justement dans ces collèges jésuites anglais à l'extérieur de l'Angleterre. Ben, on envoyait des malles avec nos enfants pour envoyer leurs vêtements, leurs biens, etc. Ben, peut-être que les livres circulaient dans ces malles. Donc, on parle de traduction, on parle de traductologie, mais on est dans vraiment un complexe. Là. C'est le Sherlock Holmes de la traduction.
Ouais, j'avais film d'espionnage en tête.
Absolument. Donc, les questions de circulation concrète, hein, où le papier circule, où va le document, mais la circulation aussi des savoirs, les mm-hmm. échanges culturels, donc quels textes sont traduits, qui les lit, pourquoi, comment on les a imprimés, où, en fait. Et puis, quelle a été aussi peut-être la conséquence de cette circulation-là? Est-ce qu'il y a eu un échange culturel qui a perduré? Est-ce que ça a changé la dynamique entre des nations? Est-ce que... Donc, il y a toutes ces questions-là qui peuvent être soulevées et qui apportent un différent éclairage à la question initiale de, bon, si ça, c'est les circonstances de traduction, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça?
Mm-hmm. Donc, un éclairage aussi sur l'histoire tout court à travers l'histoire de la traduction que vous tracez et que vous êtes en train d'essayer de comprendre à travers toutes les questions là, qui sont soulevées à travers elles. Là.
Absolument. Donc, l'histoire de la traduction, si j'en offre une définition, c'est ça ne peut pas être juste une chose. C'est le reflet d'une culture, d'une époque, mais avec toutes ces facettes que j'ai nommées, donc les questions sociales, politiques, idéologiques, culturelles, puis... Il n'y a pas moyen de dissocier ces éléments-là parce que on traduit quelque chose pour quelqu'un à un moment précis. Mm-hmm. Donc, qui l'a fait? Pourquoi? Qui l'a payé? Puis, on peut reprendre ces questions-là. Ça, c'est le virage culturel qu'on appelle en traductologie. C'est pas tout le monde qui étudie la traductologie de la même manière que je vous présente aujourd'hui. Il y a toutes sortes de manières d'aborder la traduction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces questions-là, donc les enjeux du virage culturel. Parce que, pour moi, c'est indissociable. Je peux pas m'imaginer sortir la traduction de ce contexte. Bon, au-delà de toutes ces questions, peut-être plus macro, il y a les questions donc de plus micro, si on veut. Puis on peut aller vraiment dans la comparaison, phrase par phrase, mot par mot. Est-ce qu'il manque des mots? Est-ce qu'il y a des phrases qui ont été changées? Est-ce qu'il y a un discours ou une métaphore qui est complètement modifiée? Est-ce qu'il y a un style d'écriture qui est adopté? Une des études de cas de ma thèse portait sur la traduction d'un document religieux, justement. Et puis, dans le style du texte original, c'est un style qui était propre au texte des jésuites à l'époque. Mais alors, le style d'écriture qui passait très bien en France, parce que tout le monde en avait vu, tout le monde avait des espèces de livres de prières de ce genre-là, ça passait en France, mais en Angleterre, ça circulait pas, des documents comme ça. Mais alors, le simple fait que le traducteur a conservé le style original pour sa traduction anglaise, qui détonne complètement de ce qui se produit, ou ce qui est publié en Angleterre, bien, c'est une affirmation aussi, c'est une volonté de vouloir exporter ou importer, si on veut, un aspect de la culture française de l'époque. Est-ce que ça a bien passé? Je sais pas. Mais est-ce que le traducteur était protégé? Sans doute, parce que on n'aurait pas mis notre vie en danger pour traduire quelque chose sans avoir les protections nécessaires.
Mais pour vous, d'aller travailler sur des textes anciens, c'est une difficulté supplémentaire, parce que là, vous n'êtes pas dans le français contemporain.
Absolument.
L'anglais contemporain.
C'est ça. On n'est ni dans le français ni dans l'anglais, mais honnêtement, le français est assez proche. L'anglais est un peu plus, diverge un peu plus, mais le français, on le comprend. Il faut aborder les textes dans le fond, comme si c'était un texte littéraire complexe. Si on ne comprend pas un mot sur 8, c'est pas la fin du monde. On continue à lire. Faut pas s'acharner parce que des fois, le mot existe encore, mais a un sens différent aujourd'hui, ou des fois, le mot n'existe plus du tout. On n'est pas dans l'usage. Mais dans la plus grande difficulté, je dirais, ça serait l'accessibilité, l'accès justement à ces documents-là. Donc, il y a beaucoup de sources que je consulte qui sont numérisées, donc des accès dans les archives numérisées. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas numérisés. Et pourquoi? Ben, parce que la traduction, c'est perçu comme une littérature mineure.
Ben oui.
Hein? C'est pas le canon littéraire, la traduction. La traduction, c'est l'espèce de mode de transmission secondaire de quelque chose. Donc,
fonctionnel.
C'est fonctionnel, oui. C'est utilitaire. Hein.
C'est la première impression ou la première vision qu'on pourrait avoir de la chose.
C'est surtout que, dans l'absolu... Si on parle de Dostoïevski, est-ce qu'on va dire que le plus important, c'est la 8e version française de Dostoïevski, ou est-ce qu'on parle de l'original, t'sais? Donc, c'est cette idée que, bon, la traduction, ce n'est pas l'original. Si c'est une copie, c'est vraisemblablement moins important ou moins... ça a une moins grande valeur.
D'où l'importance que certains accordent à lire dans le texte, lire dans le texte source, là.
Absolument. Donc, pour avoir accès à ces documents, on parle d'aller consulter des archives, justement. Déjà, il y a de plus en plus de traductions du 17e, 18e siècle qui sont numérisées, rendues accessibles. Mais dans ma recherche récente, en fait, là, je fais le contraste entre les traductions imprimées. Quand on parle de traductions imprimées, on parle d'imprimées sur une presse à imprimer, là, et les traductions manuscrites. Mais là, c'est pire quand on arrive dans la traduction manuscrite, parce que si une traduction, ce n'est pas le texte canonique, alors au moins la version imprimée, c'est la version comme solide qui perdure.
Officielle, comme.
C'est ça, c'est la version officielle. Mais alors, celle qui est manuscrite, est-ce que c'était juste un brouillon? Est-ce que... t'sais... Donc là, on est dans une sous-catégorie d'une sous-catégorie moins valorisée. Et puis, pour aller les voir, ces fameuses traductions manuscrites, il va falloir que j'aille en personne.
Où?
À Londres.
À Londres et dans quoi? Dans des monastères?
En gros, c'est à la British Library, okay. Dans les grandes collections. Il y a aussi la bibliothèque, la Bodleian à Oxford, qui conserve beaucoup de documents, mais il y en a un peu partout. Là, la question se pose, combien de bibliothèques vais-je devoir visiter? Les auxiliaires de recherche qui travaillent sur mon projet cette année ont fait un travail remarquable de recension de documents. On a cherché à Chicago, à Yale, à Los Angeles, un peu partout dans le monde. Puis, c'est sûr que pour la culture anglaise de l'époque, la plupart des sources sont en Angleterre, mais ça prend vraiment de faire toutes les recherches, recenser les documents à aller consulter, puis ensuite d'aller s'asseoir des heures dans les bibliothèques d'archives, puis explorer les documents. Puis encore, si on veut rajouter un autre volet de difficulté, je m'intéresse aux traductions manuscrites, aux traductions imprimées. Puis j'ai appris récemment que à la British Library, il y a deux salles de lecture différentes, une pour les documents imprimés, puis une pour les documents manuscrits. Là, j'ai dit, comment je vais faire pour comparer?
On ne pourrait pas, c'est ça, le faire en même temps.
Je ne peux pas m'asseoir avec le même document en deux modes, deux versions différentes. Il va falloir que je passe l'avant-midi dans une, puis l'après-midi dans l'autre, puis que je prenne des photos. Normalement, on peut prendre des photos.
C'est ça que j'allais demander. Vous avez le droit de... OK.
Il faut demander pour chaque document. Il y a des documents qui sont plus jugés plus précieux ou qui sont en moins bon état. On n'a pas le droit de les manipuler de la même manière. Mais en règle générale, à partir du moment il y a des barrières pour rentrer dans la section d'archives d'une bibliothèque, c'est des barrières formelles. Il faut avoir une bonne raison d'y aller. Il faut montrer ses pièces d'identité, etc. Il faut annoncer à l'avance qu'est-ce qu'on veut aller voir, a priori. Mais une fois qu'on passe toutes ces étapes-là, on découvre un monde phénoménal d'archivistes, de bibliothécaires, de spécialistes qui sont là pour nous aider, qui répondent à nos questions, qui nous aident à trouver toutes les choses. Donc oui, il y a des barrières formelles, mais une fois qu'on arrive sur place, on trouve des gens qui sont très serviables.
Et connaissants.
Et connaissants surtout, absolument.
Marie-France, je voulais vous demander, est-ce qu'à part les archives des bibliothèques célèbres comme celles que vous venez de citer, est-ce qu'il y aurait des congrégations encore ou des jésuites qui se trouvent quelque part, qui auraient gardé des traces?
Absolument. C'est là où on en est dans la recherche, là, dans mon groupe, dans mon laboratoire. Là, on est en train de faire ça. Les jésuites sont connus pour être des gens qui avaient beaucoup documenté leur histoire. Et puis, comme ils étaient assez bien placés politiquement, ils étaient souvent au courant à l'avance qu'une série de personnes s'en venaient brûler leurs manuscrits ou leurs archives. Donc, ils les déplaçaient avant. c'est pour ça que j'aime beaucoup étudier les jésuites, notamment pas nécessairement parce que j'apprécie leur idéologie, mais je trouve que c'est assez génial d'avoir pu conserver aussi bien les documents dans l'histoire.
C'est des fabuleux conservateurs.
À quand le film? À quand le film?
Marie-France, avant de terminer, j'ai envie de vous demander quelle est la place de la traduction ou de la traductologie dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus pluriel, de plus en plus multiculturel, aussi plurilingue. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais comment voyez-vous la place de votre discipline ou de la traduction elle-même?
La traduction, on s'en passe pas. C'est aussi simple que ça. Il y a souvent des questions aujourd'hui, où c'est quoi l'avenir de la profession de traduction, de traducteur. Les gens parlent aussi des applications mobiles qui traduisent pour nous, ou de Google Translate, mm-hmm. ou des ressources comme ça. Est-ce que ça veut dire que les traducteurs vont disparaître? Non, jamais. On va toujours avoir besoin de traducteurs, traductrices. Les ordinateurs nous aident dans nos démarches, mais on peut pas travailler sans l'humain connaissant. Qu'est-ce que la traduction apporte dans la société actuelle? C'est la capacité de réfléchir sur toutes les questions qui nous préoccupe. On est une nation, un pays avec deux langues mm-hmm. officielles. On s'en sort pas. Mm-hmm. Puis on sait très bien que c'est pas parce qu'on a deux langues officielles qu'on peut s'en sortir juste avec du français et de l'anglais au Canada. On a des communautés multiculturelles, multilingues. On accueille des immigrants, on accueille des réfugiés. Si je pense à mes grands-parents qui sont arrivés mm-hmm. en 1954, mm-hmm. Ils ont appris l'anglais ici. La traduction, dans le fond, dans notre société, c'est l'espèce de pont qui lie. Il y a toutes sortes de métaphores pour concevoir la traduction, mais sans cette idée de lien, de connexion, de pont, on s'en sort pas. On veut, c'est une manifestation du désir de communiquer avec quelqu'un qui est différent de nous. C'est aussi le désir de vouloir être compris, de vouloir mm-hmm. comprendre et d'apprendre et d'échanger et de prendre plaisir aux mêmes choses. Comment on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut juste dire, ah ben, à bas la traduction, tout le monde va apprendre l'autre langue? Mais il y en a beaucoup des langues, là, on s'en sort pas.
Laquelle?
Et lesquelles? C'est génial d'apprendre d'autres langues, mais on peut pas tout apprendre en tout temps. Donc, pour se donner cet accès-là, s'ouvrir cette porte-là sur le monde, on peut découvrir toutes ces choses grâce à la traduction, aux échanges de textes, de cultures dans la traduction, des documents traduits.
Tout à fait, dans cette conscience-là que c'est pas juste la langue, c'est la culture, toute une culture, comme vous l'aviez si bien dit là, en début là, d'entrevue.
L'accès à la connaissance.
Oui. Tout à fait. Marie-France Gagnette, ça a été un plaisir de vous recevoir au micro de Facteur humain, le balado.
Oui, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous, ça m'a fait plaisir.
Merci.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.